Bonjour et merci pour être si matinaux. On sait bien que les festivals, lorsque on approche de la fin, puisque demain sera la dernière journée, entre autres dédiée aux scolaires, que tout le monde fatigue et que venir à 10h assister à un débat, c'est courageux. Et donc, on remercie le public d'être présent ce matin pour la présentation donc d'une table ronde qui a pour but en fait de présenter une nouvelle collection. Mais pour ne pas vous ennuyer, on va le faire évidemment au travers du talent de nos trois écrivains présents. Trois écrivains qui sont publiés, vont être publiés ou le seront un peu plus tardivement. Loïc Henry, tout d'abord, qui a publié quelques nouvelles, entre autres en Australie. Et oui, nul n'est prophète en son pays, surtout au début. Et puis, Loïc Henry a aussi publié un premier roman qui s'appelle Loar, qui a eu un beau succès critique et public, puisque après être sorti dans une petite maison d'édition, Griffe d'Ancre, qui a disparu malheureusement il y a quelques mois, cette maison d'édition a fait un vrai travail de découverte et de création, et entre autres publié le premier roman de Loïc Henry, Loar, qui a été, ce qui est quand même très rare pour un premier roman, repris ensuite en poche aux éditions Gallimard en collection Folio SF. Et j'ai donc le plaisir, lors de la création de cette collection aux éditions Scrinéo, collection de space opéra, collection pour adultes, mais que peuvent lire des jeunes lecteurs, bons lecteurs. Il s'adresse aussi aux lycéens, voire même à quelques collégiens passionnés de lecture. Donc cette collection va accueillir, a accueilli Loïc Henry, qui est une façon de dire cette collection est ouverte aux jeunes écrivains, à partir du moment où ils ont du talent et à partir du moment où ils racontent des histoires. Et donc, Les Océans Stellaires, on en dira bien sûr un mot rapidement, c'est le premier roman de cette collection qui est une façon de dire place à la jeune génération française, celle qui sait raconter des histoires et qui a du talent. Deuxième roman de la collection qui sortira en février, Étoiles sans issue, c'est un roman de Laurent Genefort. Là, on a un spécialiste du space opéra. Vous savez qu'il a eu deux prix, là. Il a squatté en nouvelles et en romans les prix spécialisés en science-fiction, ce qui évidemment fait que tout le monde le déteste, mais les lecteurs, eux, l'apprécient. Et puis Estelle Faye, qu'on n'imaginait pas peut-être dans une collection de science-fiction dédiée à la SF en général, mais très largement au Planète Opéra et au Space Opéra. Estelle Faye a eu le prix Imaginal du meilleur roman jeunesse, a eu aussi un prix Elbakine, si ma mémoire, deux même, voilà, ma mémoire était un peu défaillante, dans la science-fiction à court terme, dans la fantasy, et elle nous écrira pour les mois à venir, il paraîtra en 2018, un space opéra. Oui, les femmes aussi écrivent du space opéra. Certaines femmes en lisent aussi. Les préjugés ont parfois la vie dure, mais on va peut-être montrer que ce n'est pas le cas. Et puis, l'idée d'une nouvelle collection consacrée donc en particulier au space opéra chez Scrinéo, c'est aussi l'idée de faire du roman d'aventure, de donner envie, de raconter des histoires, de ne pas ennuyer le lecteur, c'est la moindre des choses quand on lui prétend lui vendre des romans. Et puis, à partir de là, évidemment, c'est ces trois auteurs qui sont emblématiques de cette nouvelle collection. Et évidemment, nous remercions les Utopiales de mettre en avant la création d'une collection, ce qui est toujours un moment un peu émouvant quand on lance le premier roman, en l'occurrence, le roman de Loïc Henry, Les Océans Stellaires. La présentation qu'ont fait les Utopiales, je vais la reprendre parce que je la trouve vraiment à la fois chaleureuse et excellente. Une nouvelle collection de science-fiction, ça fait toujours plaisir. Et quand il s'agit en plus de space opéra, genre peu soutenu en France, malgré de louables efforts chez les maisons d'édition historiques, les fans se doivent de lever une oreille, voire un œil. Scrinéo vient de nous parler de ses projets pour le space opéra français, en compagnie de certains de ses auteurs et de la directrice de collection, modératrice, par ailleurs. Voilà, Loïc Henry, Les Océans Stellaires. Alors déjà un oxymore, un titre un peu étonnant, le rapport entre les étoiles et les océans. Votre roman, justement, il reprend un peu le thème des seuils, comment on passe d'une planète, d'un système à un autre, mais vous l'avez imaginé un petit peu différemment.
Oui, alors bonjour à tous d'abord. Je ne sais pas si le micro fonctionne, c'est OK ? Oui. Merci d'être venu, comme disait Stéphanie, puisque c'est vrai que c'est le début de la journée, c'est toujours un petit peu plus difficile de se tirer du lit. Pour répondre à la question de Stéphanie, c'est vrai que à partir du moment où on écrit un roman de space opéra, ça implique mécaniquement plusieurs mondes, plusieurs planètes. Donc souvent, pas toujours, mais souvent, des voyages qui sont parfois pacifiques, qui sont parfois sous forme de conflits, entre ces planètes qui sont souvent très lointaines les unes par rapport aux autres. Donc il y a un certain nombre de solutions. Il y a le voyage qui prend des décennies, des siècles, ainsi de suite. Il y a la cryogénie, un certain nombre de choses. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'auteurs de science-fiction qui ont choisi l'option du, on va dire, au sens très large du terme, du trou de ver, c'est-à-dire d'un passage qui permet d'aller d'un endroit de la galaxie ou d'un endroit de l'univers à un autre. Alors c'est le choix que j'ai fait pour c'est le choix que j'avais fait déjà pour Loire. C'est le choix que j'ai fait aussi d'une manière assez différente pour les océans stellaires, puisque en fait ces passages qui s'appellent des seuils en effet se trouvent non pas dans l'univers ou dans un système solaire ou stellaire proche ou dans l'espace profond. Ils se trouvent en fait au fond des abysses et ils permettent de rejoindre les abysses d'une autre planète. Ce qui fait que la colonisation spatiale s'est déroulée via un endroit qui est finalement très très peu connu de l'homme également, c'est-à-dire les fonds sous-marins, et que c'est ainsi qu'il a colonisé des planètes avec toutes les conséquences, on peut dire, politiques, économiques aussi, qui en découlent, à savoir le fait que la découverte d'une planète, c'est en soi une très bonne nouvelle pour l'entité qui va la découvrir. Mais il y a un côté un petit peu exponentiel, puisque la découverte d'une planète vous permettra d'explorer les propres océans de cette nouvelle planète, qui à leur tour vous permettront peut-être de découvrir d'autres planètes et ainsi de suite.
Les océans stellaires, c'est, Loïc Henry, un roman d'aventure. Qu'est-ce qui vous plaît dans le domaine de la science-fiction, dans le roman d'aventure ?
Alors c'est vrai que la science-fiction est protéiforme, c'est-à-dire qu'on peut avoir de la hard science. On peut avoir du space opéra, on peut avoir de la dystopie, on peut avoir plein de choses. Ce que j'aime dans le space opéra, c'est ce côté justement en effet aventure, c'est-à-dire qu'il se passe des choses, on est sur une littérature où les personnages sont importants, puisque c'est vrai que bon, la science-fiction est parfois un petit peu méprisée par les médias traditionnels, mais un bon roman de science-fiction, c'est avant tout un bon roman tout court. C'est-à-dire que si vous avez une histoire qui est vraiment intéressante avec des personnages en carton, bon, je pense que le lecteur décroche assez vite. Donc l'idée, c'est qu'en effet, dans une logique de space opéra, on a des personnages qui vivent des choses, qui vivent des aventures, on a un suspense, on a des rebondissements, on a quelque chose de chaud, qui est censé emporter, enfin en théorie, j'espère, qui est censé emporter le lecteur et l'amener à la découverte à la fois de nouveaux mondes, de nouvelles aventures, de nouveaux systèmes politiques, économiques, sociétaux, ainsi de suite.
Vous parliez des personnages, Loïc Henry. On avait une discussion hier, justement, en préparant cette rencontre avec Laurent Genefort sur le personnage, et j'étais peut-être un peu dur, alors que j'adore la science-fiction, je disais, mais... Est-ce qu'on se souvient nécessairement, surtout dans la première génération de romans de science-fiction, est-ce qu'on se souvient toujours des personnages de science-fiction ? Les personnages, les grands personnages de fantasy, je ne prendrai que Harry Potter ou évidemment les personnages de Tolkien, on les connaît, on s'en rappelle, etc. Un certain nombre de personnages de science-fiction, même de grands livres de science-fiction, on se souvient de l'histoire, on se souvient de l'univers, mais on ne se rappelle pas toujours des personnages et... Laurent, sans s'inscrire en faux sur ce que je disait quand même, attention, on se souvient surtout des personnages, surtout des méchants, Laurent.
Pas forcément... Ouais, vous m'entendez, oui. Pas forcément des méchants, disons des personnages monstrueux. Mais monstrueux dans le sens hors norme, en fait. Mais là, j'avais un petit débat avec Estelle, en fait.
On n'était pas tous d'accord. En
effet. On n'était pas tous d'accord, mais... On se rappelle, disons, c'était pas dans un sens négatif. C'est-à-dire que, par exemple, on se rappelle de Robbie comme d'un personnage, par exemple, Robbie le robot de Planète Interdite, au même titre qu'un personnage humain. Il a autant d'importance qu'un personnage humain. Les personnages de mutants sont aussi importants que les personnages humains. C'est un peu dans ce sens-là. Mais pour moi, une des caractéristiques de la SF, c'est ça. C'est d'avoir ce décalage, y compris au niveau des personnages, ce qui fait que, même si on a tout à fait des personnages, parce que je pense que c'est un, c'est, c'est un, c'est un procès un peu injuste qui est fait à la SF d'aujourd'hui de ne pas produire de personnages dans ses romans. Alors, regardez les personnages des bouquins de Ian Banks, Dayardal. Enfin, c'est des personnages qui sont qui tiennent la route. Si c'était des romans de littérature générale, ça ne change rien. Simplement, la SF, de par ce décalage, on va plutôt se souvenir des personnages décalés, hors normes, dont ces personnages du coup plutôt Paul Atréides, c'est un des personnages clés. C'est pas n'importe qui, c'est un prophète.
Oui, dans Dune, bien sûr.
Dans Dune.
Oui.
Si je peux, donc Laurent a amorcé la discussion, là où j'étais. Disons que je nuançais le propos de Laurent plutôt que de ne pas être d'accord, parce que je ne me permettrais pas... vous avez une culture de science-fiction qui dépasse un peu la mienne. Mais notamment, ma culture de science-fiction, et a fortiori de science-fiction un peu plus récente, vient autant pour moi du cinéma que des romans. Et vraiment, dans le cinéma, depuis les années 70, les personnages humains, très humains, prennent autant de place, j'ai l'impression, dans la culture et dans l'esprit des fans que les personnages vraiment décalés. Et par exemple, Alien, ça marche, parce que face à l'alien qui est évidemment tellement étrange, il y a cette idée de génie à la fois des scénaristes et vraiment mise en avant par Ridley Scott aussi, qui est sublime, de faire des camionneurs de l'espace. C'est-à-dire pas des super astronautes, pas des super héros, mais finalement, Ripley, c'est presque la personnage la plus ordinaire du vaisseau. C'est presque, comment dire, l'archétype de la petite main de l'espace, du petit soutien de l'espace. Et pour la plus jeune génération encore, enfin, ce que je vois autour de moi, dans les très jeunes, ils accrochent énormément donc à Gardiens de la Galaxie, mais surtout parce qu'il y a le personnage de Star-Lord qui, au milieu de tous ces gens extraordinaires, exubérants et tout, est limite trop humain en fait, est hyper faillible et pas un grand héros. Et c'est ça qui leur plaît aussi, c'est d'avoir quelque part ces personnages qui vont faire le lien entre ces mondes extraordinaires et puis eux, leur quotidien, leur humanité. Et ces personnages-là prennent de la place, j'ai l'impression, en SF ces dernières années. Et ça met en valeur d'autant plus l'étrangeté et les incroyables horizons que nous ouvre la SF en général, et le space opéra en particulier. Donc c'est une grande richesse de la SF. Voilà.
Justement, qu'est-ce qui peut attirer une auteure à la fois déjà installée ? Vous avez plusieurs prix, vos romans ont été repris, certains déjà sont repris en poche, ont du succès. Qu'est-ce qui fait qu'une auteure de votre génération, qui a plutôt écrit de la fantasy au départ, fantasy historique, fantasy un peu japonaise dans le cas de Porcelaine, un roman de science-fiction qui a été apprécié, mais qui se passe à Paris dans un futur relativement proche ? Qu'est-ce qui fait que, quand je vous ai proposé de faire un roman de space opéra pour la nouvelle collection, tout de suite, vous avez relevé le défi. Qu'est-ce qui vous a donné envie, justement, de vous lancer dans ces univers qui, autrefois, en tout cas, étaient surtout des univers en France masculins ?
Alors, déjà, je vais digresser 30 secondes, si ça ne dérange pas. Il y a une chose qui se passe dans, en gros, les auteurs qui sont arrivés en même temps que moi, c'est-à-dire il n'y a pas longtemps, dans l'imaginaire. Et on est plusieurs à se retrouver là-dessus. Et j'adore ça, c'est qu'on est des auteurs qui sont vraiment multi-univers. On veut être multi-univers, on adore plein de genres de l'imaginaire et on veut en explorer plein. Il y a un peu cette boulimie de genre. Et on a la chance d'avoir des éditeurs qui sont hyper ouverts à ça. Donc merci beaucoup aux éditeurs, aux directeurs de collection qui ne nous mettent pas dans des cases et au contraire qui nous font confiance pour aller vers des horizons différents. Et moi, par ailleurs, ce qui m'a attirée, ben, bêtement, en fait, je suis un peu une auteure de fantasy, certes à la base, mais je suis avant tout une lectrice de SF, même si j'adore la fantasy, et maintenant c'est un peu c'est ma première maison en tant qu'auteur, mais en tant que lectrice, j'ai vraiment commencé par la SF, en pillant la bibliothèque de ma mère, qui est aussi une grande fan de SF. Donc en volant Tout Fondation, en volant Chronique Martienne. Et vraiment, c'est là-dedans que j'ai fait ma première culture en tant que lectrice. Et avoir ces horizons infinis. Mon premier roman de fantasy, qui était La Dernière Lame, était à ma manière un énorme hommage à Dune, en fait. Donc quelque part, au travers de la fantasy, il y avait dans celui-là beaucoup un amour pour la SF qui transparaissait pour ceux qui me connaissaient un peu. C'est-à-dire à peu près personne à l'époque. Donc bon. Mais... Et vraiment, après, il y a une anthologie à laquelle on m'a proposé de participer qui s'appelle Avenir Radieux, qui était faire de la SF positive. Et pour moi, la SF positive, tout de suite, ça m'a parlé de space opéra. parce que le prochain grand rêve de l'humanité, enfin, pour moi, c'est vraiment rêver aux étoiles. C'est partir plus haut, c'est partir plus loin, c'est pas juste sauver la planète, c'est vraiment trouver une nouvelle frontière. Ce qui me parle dans la littérature, c'est vraiment les littératures de frontières, de voyages. J'adore le roman maritime, j'adore les romans d'exploration, tout ce qui peut permettre vraiment de sortir de sa carcasse et d'aller voir beaucoup plus loin, de mettre notre petite existence en perspective par rapport à des horizons gigantesques. C'est toute la littérature qui parle de liberté et pour ça, bah, le space opéra, c'est juste le genre idéal. Donc merci beaucoup à Stéphanie Nicot de m'avoir invitée dans cette collection.
Ça me fait penser à une citation que j'avais notée parce que je pense qu'on ne peut pas ne pas la rappeler, entre autres aux jeunes lecteurs. C'est un certain Constantin, pardonnez-moi mon russe très mauvais, Tsiolkovsky, et qui est donc, on pourrait le qualifier de père et de théoricien de l'astronautique moderne, un russe. Et il disait, la Terre est le berceau de l'humanité, mais on ne passe pas sa vie entière dans un berceau. Ça renvoie totalement à ce que vous disiez.
Bah, oui, et puis... Pour une question aussi de génération, j'ai eu la chance, j'ai l'impression, de grandir dans un monde où, je ne sais pas, pour ceux qui sont en gros très très trentenaires dans la salle. En tout cas, quand j'étais enfant, et même quand j'étais encore début d'adolescence, on pensait qu'aller vers les étoiles, ou au moins aller vers Mars, c'était possible. Que ça allait arriver à l'humanité quand nous, on serait adultes. Et j'ai grandi vraiment avec ce rêve-là dans la tête. Et maintenant, donc, je fais aussi de la littérature pour ados. Je croise pas mal d'ados par ailleurs donc dans des choses que je fais dans ma ville et dans mon coin. Et je croise maintenant des ados, même des gens de 20 ans, qui n'ont plus ce rêve-là. Pour qui l'espace, c'est devenu inaccessible. C'est devenu, oui, bon, bah, on ira peut-être un jour dans 200 milliers d'années, mais c'est même pas quelque chose auquel ils pensent, en fait. C'est, je croise plein de jeunes qui ne rêvent plus de devenir astronautes, qui ne rêvent plus de voir l'homme poser un pied, même plus sur Mars, a fortiori qui ne rêvent plus d'aller au-delà du système solaire. Et c'est comme si on avait coupé une partie des jeunes générations de ce rêve et qu'on avait réduit leurs horizons. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve très triste. Quelque part, écrire du space opéra, c'est à ma petite manière, à ma petite mesure aussi, une tentative pour revivifier ce rêve, notamment auprès des plus jeunes générations. Et justement, quand vous parliez des lycéens, des collégiens qui peuvent lire du roman adulte, enfin vraiment, ma culture de SF, je l'ai fait avant tout en lisant des romans pour adultes quand j'étais au collège et au lycée. Vraiment, c'est aussi à eux que je veux parler pour leur dire « mais si, c'est possible ». Ce n'est pas juste des univers où mettre des aventures cool, mais complètement improbables. C'est des endroits où l'humanité peut aller un jour et il faut qu'on y croit parce que c'est ça qui nous permettra aussi, mine de rien, de dépasser toutes nos petites guerres intestines, c'est d'être unis dans un grand rêve commun. Et il y a ça dans la SF, il y a ça dans l'astrophysique. J'ai eu la chance d'aller dans le grand observatoire du Paranal, dans le désert d'Atacama. Et c'est l'endroit le plus utopique que j'ai vu. C'est-à-dire où il y a des gens qui viennent de partout, sans souci de rivalité économique. Juste, ils prennent les meilleurs projets scientifiques ou les projets scientifiques qui voient le plus loin et ils mettent l'observatoire à disposition des chercheurs qui viennent de partout et ils travaillent à un grand rêve commun. Et il y a une ambiance que j'ai vue nulle part ailleurs, une ambiance de solidarité, une ambiance vraiment de faire ensemble, sans intérêt immédiat, sans toutes ces rivalités qui pourrissent la planète aujourd'hui. Et l'espace aussi peut nous offrir ça, une raison d'être ensemble. Donc c'est pour ça que c'est important.
Laurent Genefort, est-ce que vous rebondissez sur ce que dit Estelle Faye ?
Je suis complètement dans ta lignée, enfin, je suis totalement d'accord. Le space opéra, c'est par essence la littérature de la pluralité des mondes, et de la pluralité des mondes habités, qui plus est. Et c'est marrant de voir en même temps, et c'est peut-être pour ça aussi, ce renouveau du space opéra, c'est peut-être une conséquence de la découverte des exoplanètes et du fait que jusqu'à il y a quelques années, cette pluralité des mondes, ce n'était qu'une hypothèse de travail. Et maintenant, c'est un fait scientifique, donc une réalité. Il y a quelque chose qui a basculé définitivement. Et le space opéra, ça fait presque un siècle que la SF se balade sur les autres planètes. Et là, tout à coup, on a basculé dans le réel. Et ça, moi, ça ne m'étonne pas que le space opéra revienne et que finalement, le renouveau du space opéra, qui a été au début des années 90, la première exoplanète, c'était 95, je crois. On était dans un basculement, tout comme... ça me fait penser vraiment au tout début du XXe siècle quand la relativité et la mécanique quantique sont apparues, c'est-à-dire qu'on est passé à autre chose. Et là, ça y est, on est dans la pluralité des mondes. Voilà, le space op, c'est le seul genre à explorer ça de façon systématique.
Loïc Henry, quand on lit Loire, premier roman, quand on lit Les Océans Stellaires, votre second roman qui ouvre donc la collection, vous nous racontez des histoires, vous avez des personnages, y compris des personnages non humains, on ne va pas en dire trop parce qu'on ne va pas révéler évidemment les petites surprises qu'on aura au fur et à mesure de la lecture. Est-ce que quelque part, même s'il y a des scènes difficiles, même s'il y a des batailles, même s'il y a des morts, même s'il y a des affrontements, la vie n'est pas plus simple dans le futur qu'aujourd'hui, le fait d'imaginer un monde futur, est-ce que justement, pour rebondir sur ce que viennent de dire Estelle et Laurent, est-ce que justement le space opéra, la SF, en nous dépeignant, même s'ils sont parfois difficiles et compliqués des futurs, finalement, par rapport à ce qu'on voit autour de nous en ce moment et cette morosité quand même assez générale, planétaire et en particulier française, est-ce que quelque part, ce n'est pas aussi une littérature de l'optimisme ?
Ça, c'est une excellente question parce que je pense que je ne suis pas forcément en phase avec la majorité de mes collègues auteurs. Il y a eu une table ronde ici dimanche où une personne qui était un scientifique justement avait une vision assez optimiste puisqu'il évoquait la situation actuelle avec une tension, on va dire, entre les deux premières puissances spatiales que sont les États-Unis et la Russie. Malgré les tensions qu'on peut avoir géopolitiques sur différents points de la planète, ils ont quand même une collaboration qui est poursuivie. Il y a toujours des Américains sur la station spatiale russe, ainsi de suite. On pourrait également citer une nouvelle que j'ai vue il y a quelques jours où finalement, je ne connais plus le nombre exact, mais un certain nombre de pays, dont la Russie et les États-Unis, qui sont mis d'accord pour créer une réserve naturelle sur une grande partie de... Enfin, une zone assez importante de l'Antarctique. Donc, quelque part, ça incite un peu à l'optimisme. C'est-à-dire que, bon, ils sont en train... plus ou moins sur la scène ou dans les coulisses de se friter les uns les autres, mais ils arrivent quand même sur les sujets, j'ai envie de dire, long terme et d'importance, parfois à trouver des accords, que ce soit sur une zone en Antarctique ou sur un programme spatial qui... Bon. À l'inverse, moi j'avoue que je suis assez pessimiste sur l'humain en général. Alors, je suis assez optimiste sur l'individu et je suis assez pessimiste sur le groupe, je m'explique. C'est-à-dire que c'est un point qu'on avait évoqué aussi dimanche dernier, mais quand on regarde d'un point de vue bidimensionnel, si vous voulez, d'un point de vue géographique et d'un point de vue historique, quelles sont les interactions dans les groupes humains ou entre groupes humains, que ce soit des nations, des peuples, des tribus, vous appelez ça comme vous voulez, que vous regardez ça maintenant ou il y a 1000 ans ou il y a 2000 ans ou même encore plus. C'est vrai que la constante, c'est quand même une certaine forme de conflit, pour ne pas dire de guerre, d'atrocité aussi, et qu'elle est présente pas systématiquement à tout endroit, tout moment, mais elle a quand même été présente historiquement partout. Et je ne pense pas qu'il y ait un moment dans l'histoire où le monde entier était en paix. Et à titre personnel, je ne vois pas tellement de raisons que ça change dans le futur. C'est-à-dire que je ne pense pas que parce que les humains auront réussi l'exploit de coloniser d'autres planètes s'ils y arrivent un jour, je ne pense pas que soudain, tout d'un coup, ils deviennent des anges et ils se disent « Ah, ok, c'est la collaboration qui va nous permettre d'aller plus loin. » Alors c'est aussi un thème, sans en dévoiler trop, c'est aussi un thème des océans stellaires, justement. Je pense que le développement humain, quelque part, il s'est appuyé sur souvent une certaine forme de compétition, pour ne pas dire de conflit. Même si vous regardez ce qui s'est passé dans l'espace, c'est aussi une espèce de compétition entre l'Union soviétique, qui avait envoyé le premier homme dans l'espace, et les États-Unis, qui ont été les premiers à marcher sur la Lune. Alors c'est parfois un conflit relativement soft, on va dire, et puis parfois c'est un conflit qui est vraiment une guerre. Et c'est vrai que la base du développement humain, elle est protéiforme, encore une fois, mais elle est quand même émaillée de beaucoup de conflits. Et une des questions qui m'intéresse, c'est justement de savoir ce qui se passerait si on rencontrait un jour une société, une race ou une espèce, appelez ça comme vous voulez, qui, elle, avait basé son développement non pas le conflit, mais la collaboration. Maintenant, le fait que, alors c'est un des thèmes du roman en l'occurrence, mais maintenant c'est vrai que le fait que ce soit les hommes qui basculent d'une logique telle qu'elle est actuellement à une logique purement collaborative, alors j'en rêverais, je serais positivement ravi, mais pour être franc avec vous, j'y crois pas une seule seconde en fait.
Cet animal féroce. Mais néanmoins, pour rebondir sur ma question, à défaut d'être optimiste en soi sur l'humain, l'humanité et sur l'animal féroce que nous pouvons être aussi, y compris entre nous et surtout entre nous, même si ce n'est pas la fête pour les espèces animales comme on le constate avec l'extinction actuelle de beaucoup d'espèces, est-ce que quand même faire du space opéra, c'est quand même penser quelque part on a un futur et que quand même c'est être optimiste vu la situation?
Oui, il y a une forme d'optimisme dans le sens où il y a une forme aussi, je rejoins ce que disait Estelle tout à l'heure, c'est-à-dire que la conquête des planètes, c'est un petit peu similaire à ce qu'on pouvait peut-être imaginer au moment où les hommes ont pris la mer pour aller découvrir d'autres mondes. Alors, c'est une dimension qui est différente, évidemment, hein, puisqu'on parle d'immensité, ainsi de suite, mais on peut s'imaginer que les premiers explorateurs soient vraiment spatiaux, je parle, soient vraiment des aventuriers, comme pouvaient l'être les navigateurs sur mer qui allaient au 15e siècle, au 16e siècle, explorer des terres. Et c'est quelque part les personnes qui vont ou qui allaient sur les mers et qui iront, j'espère, un jour dans l'espace, il y a une certaine forme d'optimisme, c'est vrai, parce qu'on est dans une logique de... On va découvrir, on est des pionniers, on va aller chercher quelque chose de meilleur, on va défricher. Et c'est vrai que c'est porteur d'espoir. C'est-à-dire que si on pensait ne découvrir que des choses banales, inintéressantes, cruelles, on ne bougerait pas. Donc le fait de simplement faire cette démarche, avoir cette logique de déplacement, d'exploration, c'est parce qu'on a en nous, l'humain en général, on va dire, on a en nous cet espoir de trouver un monde meilleur. Donc oui, on a une forme d'optimisme qui est liée quelque part à l'aventure, qui est liée à l'exploration, et par ricochet, donc est liée au space opéra.
Un grand écrivain américain de science-fiction, Joe Haldeman, disait « La science-fiction n'a pas perdu son pouvoir de susciter l'émerveillement. » Mais il ajoutait, et c'était une réflexion sur la différence entre la science-fiction des origines, entre autres anglo-saxonnes, et la science-fiction qui s'écrit aujourd'hui, je pense à Anne Leckie, invitée du Festival Utopial en 2016, mais je pense aussi à d'autres écrivains qui sont, les écrivains qui sont ici autour de la table, les écrivains français. Joe Haldeman ajoutait « Ces grandes aventures à travers l'espace et le temps sont brossées à grands traits sur des immenses toiles, comme on peut s'y attendre, mais ce n'est plus le space opéra de nos pères ou de nos grands-pères. » En quoi, Laurent Genefort, mais si on voit que vous faites référence au père et au grand-père du genre, en quoi votre space opéra est-il différent?
Je ne sais pas trop, en fait. J'ai l'impression qu'il y a toujours eu cette espèce de double casquette, de décrire un univers de façon assez réaliste, en grosso modo se calquant sur les lois, enfin, ou en respectant les lois de la physique, au moins à gros traits, et au moins les lois astrophysiques. Et en même temps, il y a toujours cette propension à la métaphore, et qui est de décrire aussi un espace, j'allais dire une projection de la Terre dans le ciel, dans l'univers. Et donc, on peut. Moi, quand j'ai commencé à écrire du space opéra, c'était avec l'idée de parce qu'à l'époque, dans les années 80, il y avait grosso modo deux formes d'organisation de l'espace humain hors de la Terre. Il y avait les empires, les grands empires à la Dune, et il y avait les fédérations à la Star Trek. Et c'était les deux grandes formes d'organisation politique, on va dire. Et c'était les débuts de la micro-informatique et de l'informatique. Les BBS, l'ancêtre d'Internet, allaient arriver juste, mais on parlait déjà de réseau, en fait, de réseau informatique. C'était déjà dans les tuyaux. Et je m'étais dit, qu'est-ce que, à partir du moment. Donc j'avais imaginé tous ces passages, ces trous de verre permettant de relier les systèmes stellaires entre eux. Et je m'étais dit, plutôt. plutôt que d'avoir une organisation géographique où les planètes des confins et les planètes centrales sont déterminées par la distance, comme justement de façon classique, c'est-à-dire voilà, des navires qui vont découvrir des... Qu'est-ce qui distingue une planète des confins d'une planète centrale ? C'est dans un réseau, finalement, dans un réseau, alors que le réseau, justement, abolit les distances. Ça va être, dans cet univers-là, l'échange de données, c'est-à-dire l'importance du flux d'échange, que ce soit des échanges de marchandises, d'argent, d'art, de gens, de personnes. Et donc, un monde des confins, ça va être un monde qui échange peu avec les autres. Et un monde central, c'est un monde, une sorte de hub, une sorte de planète où les échanges sont, où les flux sont très intenses. Donc, donc voilà, ce qu'on projette dans l'espace, ça peut être de l'idéologie, c'est-à-dire un système politique, donc un système idéologique, un système technique ou un mélange des deux, ce qui est le cas pour mon space opéra. Donc voilà. Mais il y a toujours eu cette espèce de mélange, enfin cette espèce de ces deux pôles qui est de faire dans le réalisme, de faire dans le réalisme et dans la métaphore. Et quand on glisse, voilà, quand on voit Star Wars, on est presque totalement dans la métaphore. Et quand on est dans 2001, on est dans le réalisme, dans un réalisme presque radical. En fait.
Il fut un temps dans ma jeunesse où je prenais le train à Paris pour aller en Bretagne et on accrochait la machine à vapeur. Oui, j'ai connu des trains tractés par la machine à vapeur. Et aujourd'hui, il y a des zones qui sont aussi loin que l'été ces villes reliées par la machine à vapeur parce que simplement le réseau est secondaire. Et qu'on vous donne un TER, un tortillard, etc., avec des horaires parfois aléatoires. Et à côté de ça, on a le TGV qui fait que vous êtes dans une ville à 300 km de Paris, vous y êtes en 1h45, donc vous faites tout rendez-vous dans la journée, ou alors vous êtes au Mans, vous êtes à 50 minutes, en fait, vous avez votre maison et vous allez bosser à Paris. C'est-à-dire qu'en fait, cet exemple a pour but tout simplement de vous montrer que ce n'est pas la distance. Par exemple, déjà dans notre monde sur Terre aujourd'hui, qui est déterminante, c'est la rapidité avec laquelle vous pouvez relier une ville à une autre. La question que je me pose, Laurent Genefort, justement, quand vous êtes un écrivain de science-fiction et que vous imaginez des planètes, des space opéra, donc ce que vous venez de nous expliquer, est-ce que là aussi, vous n'êtes pas confronté pour imaginer vos mondes et donner à comprendre au lecteur de régler le problème de la distance par un moyen d'aller plus vite ?
Alors, dans le monde que j'ai conçu, justement, j'étais au fait. La distance, c'est le grand, c'est le grand problème du space opéra. C'est comment avaler ces distances. Donc, il y a deux manières de traiter le truc. C'est de faire le saut. Donc, c'est les trous de ver ou assimilés. Donc, on chinte en fait l'espace-temps. Et de l'autre, c'est d'aller très vite, donc vitesse supraluminique, à la Star Trek. Voilà. Et donc, moi, j'ai clairement choisi de faire le chint, on va dire, parce que ça évite en plus, les décalages temporels, etc. Donc, en fait, c'est une façon de chiffonner tout et de remettre ça dans une boule qui permette d'avoir un traitement réaliste. Sinon, on est condamné à... Condamné à l'hyperespace, j'allais dire.
Si je peux rebondir là-dessus, c'est vrai que, bon, après, il y a une troisième solution aussi qui est de raconter des grandes épopées où ce sont par exemple des vaisseaux au monde qui mettent des générations à rejoindre. Mais là, on est dans une logique un petit peu différente, ou alors des systèmes où on endort les humains comme on peut avoir dans Interstellar, par exemple, pour citer quelque chose dans le domaine du cinéma. Mais c'est vrai qu'il y a un élément quand même important et que citait Laurent tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est comme un bateau qui sort du port et à un moment donné, vous avez des rochers des deux côtés, donc il faut passer au milieu. Et le rocher de gauche, en fait, il s'appelle, alors je dirais pas réalisme, mais au minimum cohérence. C'est-à-dire que si vous commencez à écrire un roman avec des lois de la physique qui sont complètement bafouées, alors c'est vrai pour l'aspect physique, mais c'est aussi vrai pour l'aspect politique, pour l'aspect économique, pour l'aspect sociétal. En fait, le lecteur va décrocher à partir du moment où il décroche du roman. J'ai presque envie de dire c'est terminé, il ne va pas le considérer comme cohérent, comme ainsi de suite. Et le deuxième écueil qui se trouve à droite de votre sortie de port, on va dire, C'est l'écueil de dire où, voilà, je veux absolument tout expliquer et puis on se retrouve avec un roman où pendant 40 pages vous allez expliquer comment un vaisseau fait pour passer d'un endroit à un autre avec tous les aspects temporels, ainsi de suite, techniques et comment vous allez produire l'énergie qui fait que vous pourrez blablabla, bla, bla, ainsi de suite. Bon, je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus passionnant dans un roman de space opéra, dans un roman d'aventure. C'est-à-dire qu'à un moment, vous sortez le lecteur et vous lui dites, voilà, on va regarder ça d'un point de vue technique. Et le risque, c'est qu'à un moment, ils disent, oui, bon, ok, d'accord, mais en fait, c'est pas vraiment ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vont devenir les personnages, ce que va devenir l'histoire, c'est d'explorer ces mondes. Donc, il y a ces deux... Ça rejoint un petit peu ce que disait Laurent tout à l'heure. Il y a ces deux écueils. Il faut éviter de taper dans l'un ou de taper dans l'autre. Il faut essayer de rester au milieu pour avoir quelque chose qui reste cohérent, mais qui reste quand même, encore une fois, dans une littérature, ça rejoint le premier point de Stéphanie tout à l'heure, dans une littérature d'aventure où il se passe des choses, où on est emporté, plutôt que dans un documentaire purement scientifique.
Si je peux me permettre de ne pas être tout à fait d'accord avec toi.
Avec plaisir. Mais
c'est, enfin, je comprends tout à fait ton point de vue. Maintenant, justement, comme Stéphanie le disait tout à l'heure, moi, je viens notamment du roman historique et de la fantasy historique. Mais dans l'histoire, quand on fait de la documentation, on trouve des choses qui sont super géniales pour justement faire des ambiances d'aventure et des choses qu'on n'aurait pas forcément trouvées en restant juste dans notre propre imagination. Et on a la chance de vivre dans une période, bah, Laurent parlait des exoplanètes tout à l'heure, où il y a plein de nouvelles questions scientifiques qui sont en train d'être posées, ou sur la matière sombre par exemple. Il y a des choses qui bougent aussi au niveau de la robotique, au niveau des intelligences artificielles, qui sont géniales. Donc on a la science qui nous fournit maintenant de la matière première, non seulement réaliste, mais surtout très très propice à créer des mondes d'aventure hyper riches. Et qui, j'espère, en plus, auront quelque chose de différent, parce que simplement, ça sera la science de notre époque aussi, et qui n'était pas celle de l'époque d'avant, et qui ouvre aussi des questions, qui ouvre des horizons nouveaux. Donc, profitons-en et nourrissons de ce réalisme-là des horizons d'aventure.
Non, mais là-dessus, on est d'accord. Hein. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a une news qui sort, on va dire, sur l'aspect scientifique, hein, même si aucun de nous n'est... astrophysicien, c'est quelque chose qui nous nourrit et c'est aussi quelque chose qui répond peut-être à la question que tu posais, Stéphanie, tout à l'heure. La différence entre la science-fiction d'il y a, mettons, 30 ans et la science-fiction de maintenant, c'est que, en fait, le champ des possibles, alors c'est pas qu'il est plus, alors, il est un peu plus vaste, mais surtout il est plus affiné. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on n'écrira pas maintenant parce qu'on sait que ce sont des voies sans issue. Et ça rejoint en effet ce que tu décris. À l'inverse, il y a des choses auxquelles peut-être personne n'avait pensé il y a 30 ans. Et qui, justement, grâce au progrès scientifique, nous permettent d'explorer. Alors, le problème, c'est qu'on est toujours, dans quelque chose qui est tracé. On va dire que c'est le niveau scientifique actuel ou les théories actuelles. Et puis après, en tant qu'auteur, à un moment donné, on est obligé de passer sous forme de pointillé. C'est-à-dire qu'on se sert du tracé, ce qui existe, ce qui existera probablement sous peu. Et puis derrière, on rajoute nos petits pointillés. Mais je pense que là-dessus, on est d'accord. C'est juste après, mon point de tout à l'heure, c'était vraiment de dire que c'est l'importance que vous donnez aux éléments purement techniques dans le récit. Voilà. Mais sur ce point-là, je suis complètement en phase avec toi. Oui, tout à fait.
Je posais aussi une question qui est un peu liée justement à la conception du roman d'aventure. Si nous savons à peu près tous nous servir d'un mobile aujourd'hui ou d'un ordinateur, la plupart d'entre nous n'en comprenons pas nécessairement la technologie. Et j'ai interrogé un peu les auteurs justement de la collection en leur disant « Mais alors pourquoi devrions-nous nécessairement maîtriser la physique quantique pour raconter des histoires de space opéra et d'aventures dans l'espace ? Comment faire pour faire l'impasse justement sur ce qui peut parfois... à part quelques lecteurs très pointus, apparaître comme pénible à ce nombre de lecteurs, qui, en gros, toutes ces explications... Moi, j'avoue que quand je lis un roman de space opéra un peu ancien, souvent, je m'arrête et je saute le passage explicatif parce que, franchement, ça interrompt ma lecture et ça m'ennuie à mourir. Et c'est surtout ce que je ne voudrais pas publier. Est-ce qu'en effet, on a besoin de maîtriser la technologie pour piloter un vaisseau spatial et encore plus pour raconter une histoire où on pilote des vaisseaux spatiaux, Laurent Genefort?
Non, bien sûr, sinon moi j'en écrirais pas. Est-ce que j'ai aucune compétence? C'est moins, le côté description qui compte que l'hypothèse qu'on développe, en fait. c'est ou l'image qu'on va donner. En fait, on fabrique de la poésie, en fait. C'est une poésie des machines, j'allais dire étendue à l'abstraction, parce que la SF d'une certaine manière. Donc, même si on sait, et même sur les vieux bouquins d'ailleurs, cette idée, par exemple, qu'avait Larry Niven d'un centre galactique en train d'exploser et avec une vague d'extraterrestres juste poussés vers l'extérieur, vers les étoiles extérieures de la galaxie, parce que le centre est en train d'exploser. Il justifiait ça, c'était un astrophysicien, et en plus avec des connaissances de physique nucléaire. Il comparait en fait le centre de la galaxie à un cœur nucléaire en emballement, donc avec des étoiles qui explosaient, qui entraînaient l'explosion des étoiles voisines, etc. Cette image de comparaison, comparer un centre galactique, donc régi par les lois de la gravitation essentiellement, à un cœur nucléaire, ça n'a pas de sens. Mais l'image est tellement belle qu'on s'en fiche. C'est la comparaison elle-même est source d'intérêt, en fait. Et à partir de ça, en plus, même si la prémisse était fausse, tout le reste est logique et tout le reste fonctionne parfaitement. Et voilà, donc il y a des tas de façons d'envisager l'abord scientifique. C'est pas seulement... clairement, ça fait longtemps que la SF, elle s'intéresse plus à comment fonctionne un moteur de fusée. C'est plus le cas. On est plutôt dans des mécanismes plutôt logiques que simplement des descriptions de vaisseaux, quoi.
Je voulais reprendre avec Estelle, justement, puisqu'elle est en train de... Elle a déjà fait son synopsis, elle est en train de constituer un peu le monde, les personnages. Voilà, elle avance sur son roman, sa perspective. Justement, moi aussi, parce que je le découvre, même en même temps que vous, la question que je voulais lui poser pour renvoyer au débat de départ, c'est le rapport entre l'univers décrit dans la science-fiction, qui a quand même une richesse, c'est aussi ça qui nous passionne, et puis les personnages dont on a vu que parfois, dans le temps, ils étaient un peu affadis ou un peu absents, ou un peu ectoplasmiques. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, et Laurent Genefort nous l'a très bien expliqué. Et comment vous travaillez, Estelle, sur un projet de roman de space opera, de science-fiction? Est-ce que vous construisez d'abord l'univers et ensuite vous imaginez des personnages? Ou est-ce que vous partez de personnages et autour d'eux vous construisez l'univers? Ou est-ce que finalement c'est un peu plus dialectique que ça?
En fait, ma manière de travailler en tant qu'auteur a changé récemment. Parce que quand j'ai commencé, je pense que ça se voyait dans mes premiers romans, j'avais d'abord des univers dans la tête. Et après, je mettais des personnages dedans. Et là, sur le dernier roman que j'ai écrit, et puis sur celui-là que je suis en train de préparer, il m'est arrivé, pour plein de raisons, une sorte de changement dans la tête qui fait que c'est les personnages qui viennent d'abord maintenant. Et l'univers se construit après. Et vraiment, le synopsis dont on a parlé ensemble, je pense que vous l'avez vu, c'est d'abord des personnages qui sont venus. C'est un duo de personnages, surtout central, dont chacune habite à sa manière différemment l'univers. Et chacune a une vision différente de l'espace. Et c'est ces deux visions-là qui vont se frapper un peu ensemble lors du roman, en faisant, j'espère, quelques étincelles, parce que c'est le but. Et voilà, le côté un peu duo improbable, enfin, j'aime bien. Et maintenant que j'ai ce duo central, je suis en train de construire l'univers. Donc notamment, en ce moment, je suis en train de construire mes premiers vaisseaux spatiaux, ce qui m'amuse beaucoup, mais qui est un vrai travail aussi. Ça ne se construit pas tout seul. Mais vraiment, c'est ça. C'était de partir de deux personnages qui portent justement chacune un rêve d'espace, chacune à sa manière, qui, mine de rien, aussi vont apprendre à porter un rêve de liberté. Et ce dont je me suis inspirée sur ces personnages, c'est... Donc, j'aime l'historique et le roman maritime. C'est les utopies pirates du XVIIe, XVIIIe siècle. Je ne sais pas si vous connaissez un peu. Mais en gros, le monde maritime du 17e, 18e est vraiment très, très dur. Les marines officielles sont super dures, notamment la marine anglaise, qui a un des plus forts taux de désertion, qui a des peines énormes pour les déserteurs, parce que les conditions de vie à bord des navires sont hyper hiérarchisées et sont quasi infernales sur certains. Et ces déserteurs-là, souvent, se retrouvent donc à entrer dans la piraterie parce qu'ils ne peuvent même plus revenir à terre. Et là, dans la piraterie, il s'est créé des tentatives de sociétés parallèles qui, en fait, quelque part, ont été les premières tentatives européennes du siècle des Lumières, de sociétés démocratiques, de sociétés utopiques, dont certaines ont eu même une petite pérennité. Et en tout cas, ils ont testé de nouvelles manières pour l'être humain de fonctionner. Et dans des conditions qui, là-dessus, donc, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, dans des conditions de vie qui étaient souvent difficiles, qui n'étaient pas des conditions de vie idéales, petit poney, tout est rose, quoi. Mais en tout cas, ils ont essayé de créer quelque chose de différent et de créer une liberté parce qu'aussi, mine de rien, ils avaient une sorte de liberté géographique. Ils avaient de la place pour créer ça. Ils avaient encore des morceaux d'océan qui appartenaient à personne ou qui pouvaient revendiquer pour eux. Et là, ce qui m'a intéressé, c'est d'avoir des personnages qui ont envie aussi de revivifier ce vieux rêve et qui vont peut-être arriver à trouver un morceau d'espace où ils vont pouvoir créer ce rêve-là ou en tout cas essayer de le faire fonctionner. Je ne sais pas si ça répond à la question.
Oui, tout à fait. Et je voulais aussi rebondir sur... Je pense que le public a entendu quand vous avez dit « elle », donc des personnages oui. féminins, ce qui, bon, on va dire, c'est logique, c'est un écrivain femme. Mais il y a aussi dans Étoiles sans issue, le roman qui sortira en février de Laurent Genefort, il y a aussi des personnages féminins, entre autres un personnage féminin extrêmement fort, pas toujours très sympathique, mais ça c'est un autre débat, un personnage vraiment qui joue un rôle déterminant, en tout cas très important dans le roman. Et puis dans le roman de Loïc Henry, pareillement, Les océans stellaires, là aussi, on a des personnages masculins et féminins, mais plusieurs personnages féminins, et deux, trois en particulier, qui sont vraiment importants. Est-ce que c'est propre à votre génération, le fait que vous soyez des auteurs féminins ou masculins, finalement, naturellement, et ce n'était pas le cas dans le space opéra, je vous renvoie à 2001 Odyssée de l'espace. C'est un film magnifique que j'ai vu 7-8 fois, et je pense que je ne suis pas la seule. Mais si vous vous rappelez, quand même, quelque chose qui ne passe plus aujourd'hui, qui passait à l'époque, c'est quand vous voyez les seules femmes à bord du vaisseau, elles sont là pour apporter le café et passer les plats. Enfin, c'est indescriptible. Il n'y a pas d'autres personnages féminins. Or, chez vous, ce n'est pas du tout le cas. Ils sont sympathiques, pas sympathiques. Finissent bien, finissent mal. Il y a toute cette diversité. Mais il y a dans vos univers, et pas seulement d'ailleurs hommes-femmes, les choses sont plus diverses. Sur le genre, on a aussi des diversités autres. Hein, comme on dit aujourd'hui, je ne sais plus le terme que j'emploierai, mais peu importe. Ils ne sont pas tous blancs, pour parler net. Voilà, cette diversité, pour vous, ça semble naturel. Dans vos romans, ça va tout seul. Vous n'imaginez plus, en gros, des univers uniquement mâles, masculins, blancs et anglo-saxons.
Oui, mais en fait, ça s'est passé de façon naturelle. En fait, j'ai jamais vraiment un discours là-dessus, enfin, je veux dire, une volonté, ça s'est fait naturellement.
Il n'y a pas de personnage, il n'y a pas un quota comme dans les séries américaines.
Non, voilà, j'ai jamais pensé à faire un quota, par exemple. Mais du coup, en fait, d'ailleurs, c'est pour ça que c'est une lame de fond, d'ailleurs, le fait que maintenant ce soit totalement intégré. Et en fait, c'est surtout par rapport à moi, ça m'a frappé quand j'ai relu des classiques de la SF, en fait. C'est là où ça m'a frappé, c'est que par exemple, ça m'a beaucoup plus frappé l'obsolescence des rapports hommes-femmes dans les bouquins que l'aspect technologique ou l'aspect politique du futur. C'est ça qui m'a frappé. Par exemple, quand je relis un Sturgeon, pour moi, c'est daté. Pas du tout parce que par les concepts, mais par les rapports humains, en fait.
Moi, j'ai une petite anecdote, en fait, parce que au moment où l'art est sorti, bon, il y a des personnes qui sont venues me voir, là, au début, des gens qui ne l'avaient pas lu, forcément, qui venaient le faire dédicacer. Puis au fil des ans, des gens qui venaient soit le faire dédicacer, soit en discuter, et qui avaient déjà lu le roman. Alors, les deux conversations sont intéressantes, mais c'est vrai que la deuxième, elle est assez intéressante parce qu'on se rend compte de la façon dont le lecteur ou la lectrice a perçu le roman. Et ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est que à chaque fois l'angle est totalement différent. C'est bon, enfin ça c'est un point de détail. Et une anecdote, c'est une fois j'ai une jeune femme qui est venue me voir et qui m'a dit bon, je sais pas comment elle était tombée sur Loire. Très franchement, elle avait lu Loire, ça lui avait plu. Bon, j'étais content forcément. Je préfère qu'on me dise ça plutôt que qu'on me dise je vais me servir de Loire pour caler une commode qui est un petit peu bancale. Hein, ça fait plus plaisir. Et elle, c'est bien une personne qui ne lisait pas de science-fiction, c'était son premier roman de space opéra. Et on a discuté un moment, on est resté un peu en contact, et elle m'a dit mais est-ce qu'il y a d'autres romans de space opéra? J'ai dit bah oui, il y en a beaucoup quand même. Mais, donc j'en ai donné quelques-uns, en particulier des romans classiques, et elle a lu Fondation d'Asimov, que personnellement j'adore. C'est vraiment une série que j'adore. Et la première remarque qu'elle m'a fait, c'est de me dire ah ouais, c'est pas mal, c'est bien, mais. En fait, il n'y a pas ou très peu de femmes. Donc, ça rejoint un peu ce que tu dis. Et c'est vrai qu'en fait, bizarrement, je l'ai lu quand j'étais moins jeune, on va dire, et à l'époque, ça ne m'avait pas marqué, peut-être parce que j'étais un homme aussi, hein, ça joue peut-être. Et maintenant, je serais vraiment, enfin, ce qu'a dit Laurent tout à l'heure, moi, j'aurais pu dire exactement les mêmes paroles. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas dans une logique de me dire, tiens, il faut que je mette X personnes des minorités, X femmes, Y, ce qu'on veut, ainsi de suite. En fait, ça me paraît naturel. C'est évident que si on a une conquête spatiale, il n'y aura pas que des blancs. C'est évident que s'il y a une conquête spatiale, il n'y aura pas que des hommes. C'est évident que...
Il faut que je rebondisse.
Il n'y aura même pas que des hétérosexuels.
Il n'y aura pas que des hétérosexuels, probablement pas. Donc, il y aura une humanité diverse, telle qu'elle est sur Terre aussi. Ça me paraît cohérent. On n'est pas dans une logique de quota, on est dans une logique naturelle. Moi, je ne me suis jamais vraiment posé la question. Les personnages sont venus. Alors, j'aimais beaucoup la façon dont Estelle décrivait le fait que les personnages soient venus en premier tout à l'heure. Et les personnages sont venus. Bon, bah, certains sont jeunes, d'autres moins jeunes. Certains sont blancs, d'autres noirs, d'autres plus asiatiques. Certains sont des femmes, d'autres non, sont des hommes, ainsi de suite. Et c'est vrai que moi, ça ne me pose pas vraiment de soucis. Je donnerai même un petit exemple pour conclure. C'est qu'il y a eu une petite novella qui s'appelle Héros ou Thanatos, qui était dans le même monde que Loar. Et c'est une novella où j'avais fait un choix qui était d'écrire à la première personne du singulier. Alors, c'est toujours un choix un peu délicat parce que ça donne du dynamisme. On est vraiment. Mais par contre, ça oblige à une certaine linéarité que je n'avais pas utilisée, bien au contraire, justement pour Loar ou pour les océans stellaires. Et la personne, en l'occurrence, dans laquelle je me suis glissé, c'était une jeune femme de 16 ans. Bon, c'est pas vraiment ma caractéristique première quand on me regarde. Et pour le coup, ça s'est fait, mais sans aucun effort, j'ai envie de dire.
On arrive bientôt à la fin de notre rencontre. Je pense que vous y voyez déjà un petit peu plus clair sur ce que les uns et les autres on a envie de faire avec cette collection, et en particulier évidemment les auteurs qui vont lui donner sa richesse et son enthousiasme. Est-ce qu'il y a quand même, avant qu'on se quitte, une ou deux questions venues de la salle ?
Bonjour. Je voudrais savoir si vous allez publier des séries des space opéras avec plusieurs, je sais pas moi, comme Nora Harrington ou des choses comme ça, quoi, avec des séries fleuves, ou est-ce que ça va être des stand-alone ?
Ça, la question s'adresse visiblement à la directrice de collection. peut-être bien oui, bien maintenant. Au début, non. Pour des raisons de prudence commerciale, on lance une collection, on n'est plutôt pas inquiet, on pense qu'il y a vraiment un public pour ce type de roman, d'aventure intelligent, passionnant. Moi, c'est ce que j'aime. J'aime plein d'autres choses, mais j'aime ça. Et je trouvais qu'il n'y en avait pas beaucoup en France. On commence à en voir, y compris repris en poche, qui est bon signe. Il y a beaucoup de films, il y a des séries. Donc, je pense que... Et puis, on a marre un peu de voir aussi le monde qui nous entoure, cette haine, cette détestation des uns pour les autres. Enfin, on est quand même, entre autres, en France, dans un climat, je crois qu'on peut le dire, quelles que soient nos opinions, détestable en ce moment. On a peut-être envie d'autre chose, quoi. Un peu d'enthousiasme, un peu de rêve, y compris si les mondes, comme l'a expliqué Loïc Henry, ne seront pas merveilleux, pas simples dans le futur. Mais oui, encore un futur. Oui, on peut aller ailleurs. Et oui, on n'est pas obligé d'avoir, juste regarder le voisin du bled d'à côté et qui ne nous ressemble pas. Et peut-être regarder que si on est capable de penser aux extraterrestres, finalement, on peut peut-être vivre ensemble sans être dans le bétifiant. Voilà, les choses sont dites. Mais donc, le space opéra, je crois qu'il y aura aussi dans cette collection un peu d'anticipation, quelques romans du planète opéra, mais ça sera vraiment planète space à 80-90%, on l'a dit clairement. Des romans one-shot, c'est sûr. Là, c'est le cas. Hein. Étoiles sans issue, c'est un roman. Des océans stellaires, c'est un roman. Sauf que, déjà, dans le cas de Loïc Henry, c'est un univers qui est le quelque part le même univers que Loar. C'est pas, il y a pas de personnages qu'on retrouve, il y a pas de série, il y a pas, mais peut-être une histoire du futur. Ce qui déjà laisse à la fois à l'auteur et au lecteur la liberté de lire une œuvre spécifique, de pas se laisser enferrer, et puis ensuite de retrouver quand même en pointillé un univers. Mais voilà, chaque roman totalement indépendant. Je pense que Loïc en dira peut-être un petit mot rapide parce qu'il faut laisser la place au suivant et pas déborder l'horaire. Voilà. Moi, j'aimerais, ça sera essentiellement des auteurs français. Peut-être il y aura une exception, mais là, ça ne serait que des reprises, des livres qu'on n'a pas vus depuis 20 ou 30 ans et qui, parce que ce n'étaient pas des livres techno, n'ont pas vieilli. Je pense à une série en particulier. Est-ce que les lecteurs suivront ? Voilà mon interrogation. Si je sens que vraiment la collection démarre très très bien, qu'au bout de 2 ans elle est installée, etc., et que les lecteurs font confiance, à ce moment-là, je pourrais peut-être m'engager dans une reprise d'une série anglo-saxonne que j'aimerais reprendre. On ne va pas la citer, évidemment, parce que sinon d'autres vont avoir l'idée avant moi. Mais il faudrait être sûr que le public suive, parce que quand même, vous le savez, certains éditeurs que j'aime et que je ne nommerai pas ont eu la très mauvaise idée de lancer des séries et de s'arrêter au premier volume. Et ça, je pense que c'est désastreux, parce qu'après, le lectorat ne suit plus. Il dit, bah, je vais attendre d'être sûr, puis s'il attend d'être sûr, justement, c'est là que c'est compliqué, surtout quand il s'agit de reprise d'une série. Donc moi, j'aimerais bien... À moyen terme, si on sent vraiment que ça fonctionne super bien, qu'on gagne tous plein de sous, qu'il y a plein de lecteurs et que les gens disent beaucoup de bien, trilogie, pourquoi pas? Pas au début, mais moi je ne serais pas contre une vraie trilogie ambitieuse de Space Hop. Il y a des auteurs français comme ceux qui sont sur cette tribune qui sont, et d'autres qui vont faire des livres pour la série, qui sont tout à fait capables de le faire. Une très grande saga, je pense à une, en effet, celle que vous citiez exactement, hein, c'est une belle saga d'aventure. J'aimerais faire ça. Il y a encore des, non pas des traductions récentes, parce que ça, c'est des coûts de traduction très lourds et on ne va pas le faire. Puis ce n'est pas trop la politique de Scrinéo, c'est surtout les auteurs français. Mais bon, j'aimerais bien. Voilà, j'aimerais bien, les choses sont ouvertes. Attendons d'installer solidement la collection. À partir de ce moment-là, si les lecteurs me disent vraiment qu'ils ont envie et que je sens que derrière les blogs, les fans et tout me disent « oui, on va vous accompagner », moi j'ai très envie.
En deux mots, c'est vrai que la description qui est faite de séries, moi je suis partagé. En tant que lecteur, j'aime pas trop les séries. Alors sauf si c'est une trilogie qui est annoncée d'avance, dans le sens où, surtout si on ne sait pas combien de livres il va y avoir. Si on sait que c'est une trilogie, que la première sort, c'est différent en fait. Mais si on sait qu'il y a un livre qui sort et que c'est une partie d'une série, mais qu'on ne sait pas si ça va être 3 livres ou 6 livres, et on ne sait surtout pas si ça va sortir dans 2 ans, 3 ans, voire dans certains cas malheureux, pas du tout. Bon, voilà. Donc c'est vrai que, en l'occurrence, que ce soit pour Laurent et pour moi, alors pour Estelle, je ne sais pas.
Ah bah pareil. Hein.
Pareil.
One shot.
One shot. Bon, ça n'empêche pas de faire après d'autres one shot dans le même monde. C'est-à-dire que Loire, c'est un univers. Celui-ci est complètement différent, mais c'est aussi un univers. On peut imaginer avoir d'autres romans dans le même monde, mais ce serait aussi, a priori, des one shot.
Pareil, sauf que Étoiles sans issue fait partie de mon univers des portes de vent que je développe depuis 25 ans, ce qui ne nous rajeunit pas.
Mais chaque roman est indépendant.
Chaque roman
est indépendant.
Une dernière question, s'il y en a une dans la salle. Pas de regret, pas de dernière question.
Il y en a une là. Une question ici. Oui, bonjour. Je suis là. Merci de lancer donc cette collection. J'avais une question qui est plutôt pour les auteurs éventuels intéressés. C'était de savoir quelles étaient les spécifications en fait de votre collection, entre autres, par exemple, en ce qui concerne le nombre de caractères, ce genre de choses. Voilà.
Là aussi, pour une raison de prix autour de 20 euros, il faut que les choses soient claires. C'est déjà un effort pour le lecteur. Donc bon, autour de 450 à 550 000 signes. Voilà. Plus court, non, parce qu'on est dans la grande novella ou le très court roman. Pas au-delà de 600 000, même pour une star du genre, parce qu'après, là, on dépasse les coûts. En gros, autour de 500 000 signes, un peu plus, un peu moins. On n'est pas à 50 000 près. Voilà. Moi, je conseille, s'il y a des auteurs, bon, évidemment, si le livre est déjà prêt, ils peuvent m'envoyer un synopsis et le début du roman en PDF, ça, c'est très bien. J'aime mieux quand on me contacte, on me fait un mail, on me propose un synopsis. Je peux déjà faire des remarques, etc. Mais ça, vous me contactez, mon mail est trouvable. Et si vous ne l'avez pas, vous venez me le demander à la fin. Il n'y a aucun sens de vous donner mes coordonnées. En tout cas, oui, on a besoin de lecteurs, surtout de lecteurs. Mais on a aussi besoin d'auteurs quand même. Il n'y a pas de problème. Et même si je vais avoir des auteurs connus, bon, il y en a déjà sur cette tribune ou qui débutent brillamment une carrière comme Loïc. Découvrir un jeune auteur qui apporte quelque chose, c'est toujours un plaisir, un bonheur, et c'est pas du tout quelque chose auquel on se refusera. Simplement, l'exigence sera forte, et donc que les jeunes auteurs se le tiennent pour dit. Je peux être charmante, mais je fais travailler très durement les auteurs. Voilà, en tout cas, c'est dans l'intérêt de tous, c'est l'intérêt des lecteurs. En conclusion, j'aimerais vous lire un tout petit extrait. C'est un très beau film. Il paraît qu'il y aura un remake. Je me méfie toujours des remakes, mais bon, j'ai vu hier un très très beau film en avant-première qui donne envie en tout cas de voir ce qu'on fera de Blade Runner. Mais le premier Blade Runner restera quand même une référence. C'est d'ailleurs amusant parce que ça n'est pas issu de Dick, ça a été rajouté par le Ridley Scott et ses scénaristes. C'est une citation. Vous savez, la scène au moment où le personnage, le chef des réplicants, va mourir et il parle des beautés de l'espace. « J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. De grands navires en feu surgissant de le pôle d'Orion. J'ai vu des rayons fabuleux, des rayons C, briller dans l'ombre de la porte de Tannhauser. » Ça nous fait déjà rêver. En attendant de trouver et de visiter tous ensemble la porte de Tannhauser, vous pouvez déjà découvrir le roman, le premier de la collection Scrineo, le roman de Loïc Henry. Et il s'appelle, Loïc, ce roman ?
Alors, je crois qu'il s'appelle Les Océans Stellaires. Hein, au cas
Les
où,
Océans Stellaires, vous pouvez le retrouver, il signe déjà. Merci à tous.
Merci.
Merci à vous.